Bienvenue sur la radio du collège L'Autre Internet.
Aujourd'hui, Abigail veut nous parler de ces magnifiques cétacés bleus qui vivent sur notre belle planète.
Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des baleines bleues, ces magnifiques cétacés. Commençons le quiz. D'après vous, est-ce que les baleines bleues sont vraiment en danger ou même en voie d'extinction?
Oui, car nous les arrachons à leur milieu naturel, notamment pour des parcs aquatiques.
Oui, elles le sont, d'après le site Oceanium, car il y a trop de pêches accidentelles ou de gens qui cherchent à vendre cher certains produits faits grâce à la baleine, comme de l'huile ou certains cosmétiques. Mais des pays chassent encore ce magnifique animal. Mais à ton avis, quel pays?
L'Europe? La France?
Il y a le Japon, la Norvège et l'Islande. Bien sûr, pour les autres pays, cela leur est strictement interdit par une loi. Mais d'après toi, en quelle année a été votée cette loi?
Je sais pas.
C'est en 1986, la Commission baleinière internationale, CBI, a fait ajouter cette loi aux autres pour pouvoir sauver les baleines bleues. Et enfin, d'après toi, combien de cétacés, baleines, dauphins, sont pêchés accidentellement chaque année?
Je dirais 250 000.
À peu près 300 000 chaque année, d'après la WWF. Et voilà, c'est terminé. Vous pourrez maintenant parler un peu plus de baleines bleues si un jour on vous pose des questions sur ce sujet. Merci d'avoir participé à ce quiz.
Nous continuons donc avec la chronique sur l'organisation de la cantine au collège de Lilia et Sarah.
Bonjour, nous sommes avec
Alice,
Safia,
Amaury.
Bonjour, alors nous sommes avec
Madame Bonnet, CPE,
Caroline Montel, CPE.
Aujourd'hui, nous sommes avec
Eliane Boussière, contractuelle au collège d'Autre Internet.
Est-ce que vous savez d'où vient la nourriture qu'on mange à la cantine?
Je sais que ça vient d'une entreprise de Montpellier, mais après, je sais pas plus.
Moi aussi, je sais ça, mais je pense que c'est des surgelés.
Moi, je pense que ça vient de Montpellier, dans un bâtiment, mais je sais pas lequel.
Alors ça vient de l'UPC, des cuisines centrales, et donc il y a une commission cantine qu'il y a dans tous les établissements, et dans ces cuisines centrales, donc il y a un diététicien qui propose des repas qui sont équilibrés sur la semaine.
Elles viennent de Saint-Clément-de-Rivière aux cuisines centrales.
Et les déchets alimentaires?
Je crois qu'ils font du compost avec.
Quelles actions ont été mises en place pour réduire le gaspillage alimentaire?
Alors pour les années précédentes, c'est difficile de vous répondre parce que ni Madame Montel ni moi n'étions là. Pour cette année, pour le gaspillage alimentaire, je pense qu'il y a les bacs qui sont installés dans le réfectoire directement.
Il y a l'affichage pour indiquer aux élèves comment faire pour
le tri.
Et puis aussi un affichage qui est incitatif pour mettre dans son assiette uniquement ce qu'on va manger et pas dépasser, par exemple, pour éviter de jeter. Donc
puis,
voilà, ça en fait partie.
Ça, il y a un travail qui est mené cette année avec les éco-délégués. Alors là, c'est encore le début. Mais voilà, il y aura bientôt d'autres sensibilisations qui seront faites directement par les éco-délégués pour le tri des déchets et le gaspillage alimentaire.
À votre avis, quel est le pourcentage de nourriture bio qui est servie à la cantine?
J'ai aucune idée.
Moi, je pense... je sais pas.
Moi, je dirais 60%.
Minimum 40% de bio dans les écoles, dans les établissements scolaires de l'Hérault.
D'accord.
Selon les établissements, par exemple, à faire 20% de bio ou ce genre de choses. Et les cuisines centrales travaillent aussi avec les producteurs locaux pour introduire au maximum des produits locaux dans l'alimentation.
Donc ça, c'est du circuit court, ça.
C'est une intention, en fait, c'est une politique montante qui a commencé dans les mairies et qui se poursuit maintenant dans les collèges, à introduire de plus en plus de bio et de local dans l'alimentation. Donc voilà, j'avais pas lu le slogan par rapport à ça, mais effectivement, c'est affiché depuis quelques années au niveau du conseil départemental.
Que pensez-vous de l'organisation de la cantine?
Je trouve que c'est organisé, mais qu'on pourrait faire mieux.
Moi, je trouve que c'est bien, mais par exemple, dans les files où on attend, il y en a qui doublent, des fois, on se fait mal.
Moi, je trouve que c'est bien organisé, mais pareil qu'Alice, je trouve qu'on pourrait faire mieux.
Comment on pourrait faire mieux pour l'organisation de la cantine?
Bah après, moi, je pense, après, je sais pas si c'est dans la cantine, mais l'appel, au lieu de faire par classe, il y en a beaucoup qui respectent pas. Il y en a, ils sont passés pour des sixièmes, d'autres pour des troisièmes. Et bah, du coup, en fait, souvent, bah, en fait, tu manges pas à ton heure.
Moi aussi, je trouve ça aussi. Aussi, il y en a qui disent qu'ils font partie d'une AS, du coup, il faut qu'ils mangent vite, alors que c'est juste pour manger avant les autres.
Du coup, il y a des personnes qui doublent, qui se font passer pour d'autres personnes et qui mentent souvent. Et ça retarde les élèves qui ont vraiment besoin de manger rapidement parce qu'ils ont vraiment une AS ou vraiment c'est à leur tour de passer et ils ont les cours qui reprennent.
Pour commencer, qui décide de l'organisation de la cantine ?
Alors voilà. Ça, c'est une discussion qu'on a avec la vie scolaire, c'est-à-dire avec les surveillants, où effectivement, on décide quel niveau va passer en premier, notamment le lundi, mardi et vendredi. Vous avez dû le remarquer, le passage est par niveau, alors que le jeudi, le passage est par classe. Et on demande aux assistants d'éducation de faire un roulement pour que ce ne soit pas toujours les mêmes élèves qui passent en premier sur ces jours-là.
En ce qui concerne les prioritaires, ça dépend des clubs, de l'AS, et donc ateliers. Les élèves des ateliers, les élèves qui sortent un petit peu plus tard et qui doivent rentrer plus tôt en cours ou en atelier mangent en prioritaire, ainsi que certains élèves qui ont des dérogations pour d'autres raisons.
Voilà. Et ce planning peut être vu aussi avec M. Terry, le principal adjoint. Ce qui est le cas pour le jeudi, puisque vous avez dû voir qu'on a refait le planning, cette difficulté qu'il y avait pu avoir, et donc le planning a été revu le jeudi notamment.
Et que pensez-vous des repas qui sont servis à la cantine ? C'est bon ou quoi que ce soit ?
Ben c'est pas bon. Enfin, non mais parce que, après c'est la cantine, c'est pas Bocuse quoi, mais c'est pas bon.
Moi... Il y a des repas qui sont bons, mais c'est dans les grandes occasions. Quoi. C'est pas... Par exemple, moi, je mange à la cantine le mardi et le jeudi. Et... Franchement, c'est pas bon.
C'est pas très bon souvent, mais je m'en rends compte parce que c'est un peu le budget du collège qui finance ça. Mais dans de grandes occasions, on peut avoir des choses comme aujourd'hui, on a eu steak frites, par exemple.
C'était pas du steak, c'était du poisson.
Non, il y avait les deux.
Il y avait les deux.
Ah bon ?
Oui.
Moi, j'ai le steak.
Et des fois, on a des tortillas.
Ça va, mais c'est moyen.
Merci à vous d'être venus.
De rien. Au revoir.
Et au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup d'avoir participé.
Merci à vous.
Merci de nous avoir invités.
Sur le collège, passons à la chronique Théâtre sans frontières, basée sur une interview de Madame Parer et ses projets considérables.
Bonjour à toutes et à tous, nous retrouvons sur une émission de un interview sur des questions basées sur le théâtre pour Madame Parer. Donc bienvenue à toutes et à tous, c'est parti. Comment vous est venue l'idée de réaliser autant de projets ?
Autant de projets, bah déjà, qu'est-ce que tu entends par autant de projets ? Parce que j'en ai pas eu autant, j'en ai seulement eu deux autour
du
théâtre.
Oui, mais dans l'année dernière, on n'en a pas eu énormément, on n'en a quasiment pas eu. Pour nous, vous êtes venus, vous avez tout fait exploser, vous êtes la bombe, vous avez vraiment tout pour nous. En fait, vous êtes la seule professeure qui fait, qui fait beaucoup de projets, parce qu'on n'en a tellement pas eu l'année dernière que pour nous, vous en faites beaucoup.
Alors... J'ai, cette année, en théâtre, fait deux projets. Un premier projet autour de la grossophobie, avec les 5e C. Et un deuxième projet pour vous, avec la compagnie Avec son pull, sur la pièce de théâtre et Avec sa queue, il frappe. Donc toujours sur le théâtre. Pourquoi autant de projets ? Bah déjà parce qu'on avait le financement avec le Basse Culture. Donc ça aide énormément.
Vous avez de l'argent, vous en profitez.
Voilà, exactement. Il y avait de l'argent, donc je me suis positionnée sur des projets qui me plaisaient pour mes élèves.
Pourquoi en faire profiter vos classes ?
Bah, tout simplement parce que c'est le but d'un enseignant, faire profiter les classes de ses projets. Maintenant, je pense que la question la plus importante, c'est pourquoi tel ou tel...
Le théâtre.
Pourquoi le théâtre ? Parce que le théâtre fait partie de l'art du spectacle. Le théâtre permet aux élèves de se désinhiber, d'aller au-delà d'eux-mêmes. Et Après, j'ai choisi un thème bien spécifique qui est la grossophobie.
Pourquoi la grossophobie ?
Pourquoi la grossophobie ? C'est d'abord parce que j'ai moi-même été victime de grossophobie.
D'accord.
Et que le comédien avec qui je travaille, qui est également metteur en scène, travaille énormément sur ce thème.
Oui, vous en avez profité ?
Exactement. On se connaît depuis longtemps, parce qu'il habite dans mon village. Et il travaille aussi en étroite collaboration avec mon chirurgien. Et on s'est rencontrés et je lui ai demandé si il travaillait avec les scolaires. Il m'a répondu par la positive. Et de là, on a monté ensemble le projet et il est venu donc proposer des ateliers ici au Collège de Trentanel avec ma classe de 5e C sur le thème de la grossophobie.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire des projets avec vos classes ? Enfin, est-ce que c'est les comédiens qui vous ont dit « Tiens, on pourra en faire avec vos classes » ou bien c'est vous qui avez...
Très bonne question. Donc, en ce qui concerne Sylvain, avant même de rencontrer mes classes, je savais que, peu importe la classe, j'allais présenter ce projet autour de la grossophobie. En ce qui concerne le projet, votre projet et avec Ça que il frappe, ça s'est fait de manière naturelle, puisqu'en fait, c'est lors de la présentation de mon programme à la réunion des 6e en début d'année, où un parent d'élève, à l'issue de la réunion, lorsque j'ai présenté le projet, mon programme et puis mon projet autour de la grossophobie, parce que je ne savais pas encore avec quelle classe j'allais l'effectuer, qui m'a envoyé un petit message pronote en me disant « Mais je suis metteur en scène, je travaille avec telle compagnie et on travaille également sur le harcèlement et on présente telle ou telle pièce, est-ce que vous serez intéressé ?» Bingo, donc j'ai rebondi sur l'idée et c'est comme ça du coup que le projet est avec Ça que il frappe est né.
D'accord, ça va nous amener du coup à la question, connaissez-vous forcément les comédiens avec lesquels vous travaillez ?
Alors Sylvain, oui, bien entendu, puisqu'il habite dans mon village et qu'il travaillait avec mon chirurgien. Donc de fil en aiguille,
oui, ça c'est lié.
On en est venu voilà, à travailler ensemble. Et du coup, pour la compagnie avec son pull, je ne la connaissais pas du tout et je l'ai rencontrée par le biais de parents d'élèves.
Oui, d'accord, c'est pas des projets qu'on vous impose
Absolument pas, on ne nous impose rien en termes de projets.
Vos cours ont-ils une visée de professionnalisation ?
Pas forcément, mais après, si les élèves sont intéressés par les métiers du spectacle vivant, peuvent suivre le cursus. C'est pour ça également que je trouve ça très intéressant de faire venir des comédiens en classe et de les laisser discuter avec eux et de poser toutes les questions possibles et imaginables.
D'accord. On remercie Madame Elodie Parère, professeure de français au Collège de Trentanel.
Merci.
Au revoir à tous. Puis la chronique romanesque de Capucine et Chloé, qui ont lu un roman dont elles vont nous parler maintenant, qui aborde le sujet délicat de la santé mentale.
Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un roman et vous parler de santé mentale.
Ce qu'il reste de nos souvenirs est un roman écrit par Natsuki Hamasawa en 2021. Il a été publié par la maison d'édition Delcourt dans la collection Moonlight Novel.
Nous suivons l'histoire de Shu, un lycéen japonais. Un jour, alors qu'il allait s'isoler dans une salle vide de son lycée, il rencontra Naoka. Ils se percutèrent, ce qui fit tomber le sac plein de clés USB de Naoka. Elle les ramassa toutes, puis elle partit. Mais Shu remarqua qu'elle avait oublié une et la ramena chez lui. Piqué de curiosité, il lut ce qu'elle contenait. C'était un testament écrit par sa camarade de classe qui était en fait atteint d'amnésie progressive.
Ce roman, il parle beaucoup d'isolation. L'isolation est définie comme étant un mécanisme psychique de défense qui consiste à rompre les liens associatifs existants entre une représentation et son affect et qui peut persister à l'état isolé dans la conscience. quoique l'autre définition, ensemble des procédés mis en œuvre pour empêcher le bruit de pénétrer dans un milieu clos ou d'en sortir, ou pour réduire les échanges thermiques entre une enceinte l'intérieur d'un bâtiment, est aussi intéressante humainement parlant. L'isolation n'est pas toujours une mauvaise chose. En effet, on a tous à un moment dans notre vie besoin de s'isoler. Mais c'est aussi un symptôme courant de la dépression auquel il faut faire attention. Les deux personnages principaux se sont rencontrés grâce à leur besoin de solitude. À partir de là, nous pouvons nous demander si leur solitude était donc saine. Mais après tout, peu importe la réponse, leur rencontre a fait éclater leur bulle d'isolement à tous les deux.
Dans la classe où sont nos deux personnages principaux, une drôle habitude s'est installée chez les filles. Porter des cardigans d'une couleur différente, chacune. Cette couleur était censée aller à leur personnalité. Il y a des passages qui expliquent les différentes couleurs attribuées aux filles. Ce système peut paraître anodin et amusant, mais l'est-il vraiment ? En effet, toutes les filles suivent la règle, ce qui est pourtant pas obligatoire, mais seulement des ces règles invisibles qui dévisent dans notre société. Ces règles qui ne sont écrites nulle part, mais auxquelles tout le monde s'adonne. Cela n'a l'air d'en déranger aucune, mais pourtant, cela reste des étiquettes qu'elles doivent porter et assumer sans vraiment avoir le choix. Il est intéressant de noter que la couleur du cardigan de Naoka est le blanc. Dans le livre, ce choix est justifié par le fait qu'elle était avec tout le monde en souriant et semblait tout le temps pleine d'énergie. Sérieuse, mais sans être têtue. Parfois farceuse, mais sans aller trop loin. En un sens, la couleur qui lui allait le mieux était sans doute le blanc. Le fait qu'elle soit aussi discrète, mais appréciée, n'était-il pas relié à sa maladie pourtant inconnue des autres ? Je pense que le blanc est peut-être en rapport direct avec sa mémoire qui se détériore, qui devient à l'état de page blanche.
Le blanc n'est pas la seule couleur abordée dans ce livre. Il y en a également une autre qui n'en est pas une, le transparent. Il est présent autour de nous et passe inaperçu mais mis en valeur dans ce livre. Les deux personnages portent beaucoup d'attention à ce qui est transparent. Ils disent par exemple « C'est ce que je voulais exprimer en disant que tu étais transparent. Si je suis le blanc et peux me parer instantanément de n'importe quelle couleur, toi aucune ne peut t'affecter. J'ai pensé que c'était tellement beau ça chez toi. » La transparence est aussi utilisée pour décrire la personnalité, comme dans ce passage. La transparence, ça m'évoquait plutôt une image belle, positive et qui m'allait pas du tout. Ou alors elle voulait dire que j'étais quelqu'un d'invisible, quelqu'un d'inexistant qui se confondait avec les ombres dans un recoin de la classe, qui est important car Naoka ne pourrait-elle pas trouver son âme transparente ? Ses souvenirs s'effacent petit à petit, même ceux des gens qu'elle voit tous les jours. Sans ses clés USB dans lesquelles elle note tout, elle serait perdue. Et même avec ça, c'est dur. Ne connaître le monde dans lequel on vit seulement grâce à nos écrits, c'est un peu comme si on le redécouvrait constamment. Ça doit être vraiment effrayant.
Transparent comme une vitre, de la glace, de l'eau, de la pluie, c'est une chose qui pour nous est sans importance et importante dans le livre, c'est également la pluie. Je me sentais mieux en entendant le bruit de la pluie. À mon avis, c'était sans doute parce qu'elle étouffait les autres sons et me permettait de me détendre. Le vacarme ambiant était comme emprisonné dans chacune de ces gouttes tombeuses de revenir à la réalité. Le sentiment de la pluie fine sur eux est quelque chose qui les relie, que Naoka n'oubliera jamais.
Les maladies mentales prennent une place importante dans cet ouvrage. Au-delà d'amnésie, la dépression est aussi évoquée. La dépression est l'un des troubles psychiatriques les plus fréquents. Elle se caractérise notamment par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, une perte de motivation et de facilité de décision. Une diminution du sentiment de plaisir, des troubles alimentaires et du sommeil, des pensées morbides et l'impression de ne pas avoir de valeur en tant qu'individu. La dépression affecte aussi le corps. Elle peut s'exprimer dans le corps par différents mots. Une personne qui souffre de dépression peut se révéler plus vulnérable aux maladies. Son système immunitaire est affaibli. La dépression survient généralement sous forme de périodes dépressives qui peuvent durer des semaines, des mois, voire des années. Aujourd'hui, on estime que 3% des enfants de 3 à 17 ans sont touchés par cette maladie. Cette prévalence augmente de 10 à 15% chez l'adolescent.
Si vous vous sentez mal, parlez-en à un psychologue ou contactez des numéros d'aide comme Fil Santé Jeune ou SOS Amitié.
Et si vous voulez lire ce roman, ce qui reste de nos souvenirs, il est présent au CDI du collège.
« Raphaël va nous parler du racisme dans le foot. Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler du racisme dans le foot. C'est un sujet à la fois délicat mais intéressant. Je vais parler de la star brésilienne Vinicius Junior, celui qui fait trembler tous les filets de Liga. Vous êtes prêts? Alors commençons. Déroulement des faits. C'était le dimanche 21 mai 2023. Valencia menait, c'est là qu'un supporter valencien décida de crier « Mono, mono !» qui signifie « singe » en castillan, à l'écart de Vinicius. Il entendit donc ça et se rapprocha d'un supporter pour lui gueuler dessus. Mais ce n'est pas la première fois, et c'est bien triste. Il fallut attendre la sixième affaire de l'année pour que ça s'embrase. Son coach, Carlo Ancelotti, a dit, je cite, « La Liga a un problème avec le racisme. Le problème, ce n'est pas Vinicius. Il est la victime. » Tandis que le joueur a déclaré, « Cette Ligue appartient au racisme. » De quoi enflammer la toile. Fort heureusement, il n'est pas tout seul. On est derrière lui, comme le dit Mbappé dans son tweet. De nombreuses stars ont réagi à la situation telles que Rio Ferdinand, ex-défenseur de Manchester United. Pour conclure, le Real Madrid a porté plainte et trois jeunes ont été interpellés. Ils ont fini expulsés à vie du Santiago Bernabéu. Voilà, j'espère que cette mini-chronique vous aura plu.
Restons dans le sport. Maxime va nous exposer les différentes polémiques liées aux Jeux Olympiques 2024. C'est parti.
Durant cet été, nous allons voir arriver des sportifs étrangers pour l'une des plus grandes compétitions actuelles, les Jeux Olympiques. Mais pour accueillir ces sportifs, certains scandales ont été mis à jour. Alors, podcast, je vais vous raconter les différents scandales. Les académies de Paris, Créteil et Versailles devront expulser 1000 étudiants de leur logement Crous, chacun en échange de 100 euros et de 2 places pour les JO. Les produits dérivés, comme les friges, ont été produits en Chine. Le ministre de la Transition écologique tente d'y remédier. La question des athlètes russes se pose également, au vu de la situation entre l'Ukraine et la Russie, tandis que les Russes terrorisent et tuent. Les représentants de cet état terroriste n'ont pas leur place dans les compétitions sportives et olympiques, a déclaré le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. La maire de Paris, Anne Hidalgo, avait confié de son côté « Tant qu'il y a cette guerre, cette agression russe sur l'Ukraine, ce n'est pas envisageable de défiler comme si de rien n'était. Voir une délégation qui vient à Paris alors que les bombes continueraient à pleuvoir sur l'Ukraine. De nombreux sans-papiers ont été employés dans la construction de certains établissements qui accueilleront les épreuves, ce qui a aussi choqué énormément de politiques. Et je vous ai présenté les différentes polémiques des JO 2024, mais le mieux est de vous faire votre propre avis.
C'est la deuxième émission du Club Web Radio avec Raphaël, Minis, Chloé, Capucine, Sarah, Jade, Lia, Ali, Abigail, Maxime et tous les élèves et adultes interviewés. Merci à eux. Retrouvez-les pour la troisième émission après les vacances d'avril.